tu es assis sur ton micro. Hein. Oui.
Voilà.
Mais assis sur ta parole.
Et je pense que j'avais décidé de m'asseoir sur ma parole, mais je ne savais pas que je le ferais de manière naturelle.
S'asseoir sur sa parole veut dire être solidement sûr de ce qu'on dit et jusqu'à se taire.
Bon, je pense qu'aujourd'hui est un grand jour pour nous parce qu'on vient de recevoir un message d'une grande dame, Maryse Condé. J'étais vu. Bah oui,
c'est pour ça qu'il m'a appelé tout à l'heure.
C'est pour ça que je l'ai appelé, donc on peut excuser le retard.
Et d'autant plus émouvant que Maryse est malade et que c'est de l'hôpital même que son médecin, qui est ici présent, a rapporté ce message, tout son effort d'élocution pour nous dire ces bons mots. Ça prouve que la littérature ne se passe pas uniquement dans les livres, mais dans l'émotion hors les murs. Oh, les pages.
Et je pense aussi que c'est cette sorte de relation qu'on peut avoir en littérature qui crée une certaine amitié. Bon, je sais que la tienne et la mienne sont désormais publiques et qu'aujourd'hui, s'il existe des ennemis publics, nous avons inventé peut-être les amis publics.
Oui, c'est vrai que quand on a commencé, en fait, cette amitié qui était silencieuse, intime et personnelle, on a voulu sortir du placard et on s'était dit ce serait intéressant d'exposer l'amitié parce qu'on expose tellement la haine, les gens sont tellement sûrs parce que la haine a toujours une sorte d'amertume, souvent peu de lucidité qui donne l'impression que c'est de l'intelligence. Et c'est terrible, une société qui croit que l'intelligence vient de la haine. Les gens qui sont haineux, ils sont toujours en train d'inventer des choses terrifiantes à dire de l'autre. J'ai entendu, il y a quelques années, quelqu'un dire d'un autre, un tel n'est pas un parfait imbécile puisque nul ne peut être parfait. Donc, il y a des gens peut-être qui méritent ça, mais ce serait intéressant de trouver des choses amusantes, intéressantes et amicales à dire d'un autre aussi.
Et je pense que j'ai eu une expérience extraordinaire parce que j'avais un ennemi, mais juré. Le gars, il ne supportait jamais, il m'insultait dans tous les sens, je n'ai jamais répondu. Et puis un jour, c'est un écrivain dont je ne donnerai pas le nom, mais vous tracerez le portrait robot. Et puis un jour, j'arrive au salon du livre, il y avait un autre de mes ennemis qui était en train de m'assassiner à la radio, et ils devaient faire une émission ensemble. Dani, tu étais là, et j'ai vu mes deux ennemis se battre le privilège d'être mon ennemi. Hein? Et le premier, le plus haineux, a dit « Tu ne peux pas me le prendre, il m'appartient. » L'autre qui dit « Non, moi je suis ennemi avec lui avant toi. » Donc je pense que...
C'est vrai que c'est une émotion, un sentiment qui peut durer très longtemps. C'est vrai, la haine est un sentiment sûr. Il y en a qui poursuivent ça même plus longtemps que l'amour. Il y a des ennemis qu'on a, on est sûr d'eux. Ils seront à nos funérailles, ne serait-ce que pour s'assurer de notre présence dans la tombe.
Mais je pense qu'il faut un mélange de ce sentiment de haine, d'amour, d'affection pour arriver dans le territoire de l'écriture. Je pense que toi et moi, on a cette sorte de parallélisme dans nos existences où nous sommes venus d'une enfance un peu parfois chaotique. Toi, tu as dû t'exiler ta vingtaine. Moi, j'ai dû quitter le Congo, pas en exil, pas pour fuir un dictateur, mais je suis arrivé en France aussi dans la vingtaine. Et peut-être que pour moi, cela a commencé à déclencher l'écriture, bien sûr. J'avais commencé d'abord, ce que je raconte toujours, par écrire de la poésie, puisque beaucoup d'écrivains commencent par la poésie, hein, le genre de... Toujours la poésie lyrique. On lit Lamartine, on lit Verlaine, on écrit aux filles, ça marche pas, mais on continue. Et quand j'étais arrivé en France, j'étais arrivé à peu près avec au moins une vingtaine de cahiers remplis de poésie. Je croyais à cette époque que le monde entier m'attendait. Donc j'arrive en France, j'envoie tous ces manuscrits aux éditeurs. Ils m'ont refusé à l'unanimité. Jamais un écrivain n'a été refusé à l'unanimité. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je travaille.
Mais j'aime bien cette expression. Ça me rappelle un trait de Borges qui disait cela. Et Borges s'intéressait beaucoup au cinéma, au western même d'ailleurs. Il disait, j'ai envoyé un scénario à Hollywood. Ils ont détesté les dialogues. Ils ont trouvé que les costumes étaient fastidieux. Ils n'ont pas aimé le synopsis qui racontait l'histoire. Ils l'ont refusé avec enthousiasme. Donc, à l'unanimité et avec enthousiasme. Mais c'est la poésie. Tu fais bien de m'aiguillonner sur la poésie, parce que quel art mystérieux et puissant. C'est-à-dire que dans ce monde complètement, fallait dire presque complètement, en vous voyant, commercialisé, où tout est fait basé sur le nombre, le gros chiffre, qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui continuent à écrire tout en sachant que le livre publié n'atteindra pas 1000 exemplaires, tout en étant conscient de cela et tout en allant dans les salons du livre, les festivals et recevoir la portion congrue et du public et qui continue à le faire. Et je crois que ce n'est pas uniquement eux, c'est comme si c'était l'honneur même de la littérature qui était là. Quand on voit, chaque fois qu'on a l'impression que tout est à désespérer, et brusquement, on voit un petit groupe de résistants qui ont été des stars en Russie à une époque, qui ont été des stars au Chili à l'époque de Neruda, où seule la poésie pouvait rassembler des nombres comme ça, et qui finalement ont vu leur pouvoir de décliner un peu à travers le temps, et qui continue silencieusement, souterrainement, à produire des émotions inédites. Et moi, je rate jamais, je l'ai dit dans beaucoup de livres, je rate jamais un moment pour saluer cette résistance qui fait l'honneur même de la littérature.
Et peut-être le témoignage que j'ai de l'écriture, parce que on n'avait pas de bibliothèque, on allait au Centre culturel français pour lire. À cette époque, pour bien écrire, on avait un livre qui s'appelait Le Parfait Secrétaire. Je ne sais pas, peut-être ceux qui sont de ma génération le savent, même la génération d'avant. Et dans Le Parfait Secrétaire, il y avait toujours des lettres de toutes circonstances. Pour si quelqu'un meurt, comment écrire, si tu veux CV, comment écrire. Et nous, on aimait la dernière partie où c'était sur l'amour. Mais le problème, c'est que Le Parfait Secrétaire avait été écrit par un Européen, un Blanc. Donc les descriptions des femmes qui étaient là, les cheveux de neige, comme ça. Et nous, on prenait cela, on écrivait aux femmes, tu es ma blonde de neige. Et la femme arrivait comme ça, s'appelait blonde de neige, qui comprenait qu'on avait piqué ça dans le parfait secrétaire. Simplement, il nous avait manqué de mettre un peu de soleil à l'intérieur, de mettre un peu de cheveux crépus. L'écriture, c'est aussi une adaptation de ce qu'on a reçu. L'écriture, c'est un moyen d'adapter la parole à l'environnement dans lequel on existe. Et si cette parole peut croiser les destins de certains, alors là, le bonheur, je pense, de l'écrivain est intense.
Tu as dit deux choses tout à l'heure. Tu as parlé de l'exil. Et ensuite, tu viens de parler des mots ou des descriptions qui ne concordent pas avec le paysage dans lequel nous nous trouvons. Je crois que c'est le fondement même de la littérature qui est ainsi posé. L'autre jour, j'étais à discuter avec quelqu'un qui me demandait comment ça se passe, comment vous vous trouvez. Il y a tous ces lecteurs qui sont là, ici présents, il y a tous ces gens qui adaptent leurs choses, mais il y a le fait que je suis en train d'écrire, j'écris pour un lectorat dont 90% ne connaissent pas mon pays natal. Et j'ai une grande partie de mes livres qui se passent là. Vous savez, c'est normal, c'est le rêve même de la littérature, de toucher des gens qui ne sont pas les témoins de votre vie. Mais il se trouve que quand Mauriac écrit, quand Giono écrit, et 90% de ses lecteurs sont français. Et là, ces 90% ne sont pas haïtiens, ne sont pas congolais. Et au lieu de que ce soit un handicap, c'est une chance. D'abord, à beau mentir, qui vient de loin, on peut toujours raconter ce qu'on veut, mais c'est une chance aussi parce que comme tu as adapté la blonde chevelure et dans ton imaginaire du parfait secrétaire, tu renvoies la marchandise. C'est maintenant à ce lectorat d'adapter dans leur imaginaire ce que tu dis qui se passe dans ton enfance au Congo et qu'il les voit qui se passe ici à Manosque. C'est intéressant, ça permet une sorte de réciprocité. Parce que sinon, ce serait dommage qu'il y aurait un lieu qui produit des choses, qui les exporte et qu'on doit tout le temps les adapter ou les traduire en réalité locale. Ce ne serait pas bon pour quelqu'un d'être sans le savoir dans cette situation de prédominance. C'est intéressant qu'on renvoie ces images retraduites. Donc quand vous lisez dans les romans de Mabankou, cette jeune fille au corps gracile et à couleur d'ébène, sachez qu'au fond, elle est blonde.
disons qu'on faisait par contraste. C'était la seule littérature qu'on avait. On avait la littérature française, on ne savait même pas qu'il existait des écrivains africains. Je veux dire que quand vous alliez au centre culturel, ben c'était la même chose qui se passait. Et d'ailleurs, à ce que je me souvienne, même quand on faisait le brevet d'études moyennes générales ou le baccalauréat, les sujets venaient d'Europe. Parce qu'on avait peur qu'il y ait un groupuscule de Congolais qui a volé les sujets, qui viennent les déposer et qui les vendent dans le quartier. Parce qu'il y avait une vente à la sauvette des sujets de baccalauréat. Donc on avait donné ça aux Français. Et nous, à l'époque, pour étudier, comme on n'avait pas trop de lumière, on avait des bougies, mais on allait étudier sous les lampadaires le long du seul boulevard, le boulevard, comme par hasard, du général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle n'a pas libéré que la France, il a libéré aussi les lampadaires du Congo-Brazzaville. Donc on allait lire sous ces lampadaires. Et puis au fond, on entendait un bruit qui disait que les sujets vont arriver lundi à 14h30 par le vol Air France 65. Et toute l'école, on allait à l'aéroport. On voulait atterrir l'avion, on disait les sujets sont descendus. Les sujets arrivaient et il y avait 4 militaires avec 2 Français, la cravate de guingois, tranquille, qui transportaient une mallette bourrée de sujets. C'était la seule, procédure pour éviter qu'il y ait de la fuite. C'était juste pour le baccalauréat que j'avais reçu était authentique, il n'était pas triché.
Mais c'est ça que j'allais dire. Mais ce serait intéressant aussi pour l'imaginaire. C'est incroyable que les choses qui sont des tracasseries. D'abord, je ne dis pas que la dictature soit une simple tracasserie, mais deviennent faits divers, un fait absolument simple qui devient extraordinaire. Quelqu'un qui a son sujet, qui descend d'un avion, accompagné, protégé par des militaires, et tout cela, on dirait un fait d'État, ça donne une importance aux jeunes élèves, et ça vous donne l'impression, déjà, l'imaginaire du jeune, du romancier précoce, parce qu'on commence à écrire bien avant de commencer à écrire, bien sûr, et il est déjà en effervescence, au point que je me suis dit une fois que l'un des drames, à un moment donné, il y a eu une sorte de... Dans toute la littérature, il y a des moments de pic et des petits plongeons. Et comme ça, il y a eu une sorte de plongeon dans la littérature française. Je me suis dit que ce qui lui manquait, c'est peut-être une toute petite dictature, mais pas gros, mais avec la possibilité d'envoyer quelques écrivains en exil. Parce que pour voir d'autres réalités et pouvoir traduire les réalités maternelles, locales, ce qu'elles ont dans le ventre, pour un lectorat différent. Quand vous avez à traduire, par exemple, si on avait, je vais vous montrer un peu comment la prédominance d'un lieu peut avoir une certaine importance. De grands écrivains, pendant la guerre et dans l'entre-deux-guerres aussi, et pendant la guerre aussi, ont institué le Saint-Germain-des-Prés comme centre de la littérature française, d'une certaine littérature française. Cocteau, Sartre, Simone de Beauvoir, Flore, et puis Émigré, Odemago. Enfin, ils en ont fait un centre. Ce qui fait que Saint-Germain-des-Prés était plus connu qu'Haïti et le Congo. Et avec des écrivains comme Truman Capote, Manhattan, Breakfast at Tiffany, ou encore Fitzgerald, un diamant gros comme le Ritz, ce fait des lieux exigus deviennent plus connus que des continents. Que des continents. Donc ça veut dire que ces gens-là vivent, il leur suffit d'écrire Saint-Germain-des-Prés pour que la planète sache de quoi ils parlent. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas à faire des descriptions de plus pour expliquer ce qu'est. Le mot Saint-Germain-des-Prés est porté par l'ensemble des romans qui parlent de Saint-Germain-des-Prés et des mémoires qui en parlent, comme les mémoires de Simone de Beauvoir et des choses comme ça. Donc il y a une puissance, une densité qui donne à l'écrivain une situation, il a l'impression d'être à l'aise dans les lieux qu'il décrit. S'il avait à décrire Saint-Germain-des-Prés pour des Haïtiens qui n'avait jamais été en France, à Paris, il serait obligé, il ne pourrait pas dire juste Saint-Germain-des-Prés. Et même un café, le café de Flore, était devenu plus connu que Port-au-Prince en littérature. Donc il serait obligé de redécrire cela, de repenser cela, et ça pourrait peut-être provoquer un dynamisme dans cette littérature, c'est-à-dire l'obligation de donner un visage réel, une concrétisation même du fait d'un lieu. Donc c'est ça qui est extrêmement important, d'où l'idée de toute petite dictature qui pourrait peut-être changer la littérature et exiger des écrivains une description plus prolifique, une description plus sérieuse, plus réelle, avec des faits, et non simplement de dire un lieu et de croire ce lieu est connu de la planète parce qu'il est au cœur d'une capitale d'un des pays les plus puissants. La puissance ne devrait pas jouer en littérature. Seule la fragilité et les sentiments.
Bon, je vais proposer. je vais proposer à mon ami Serge Joncourt de prendre la dictature congolaise et puis je vais prendre la démocratie française pour voir un peu ce que ça donnerait.
Oh, je verrai Jérôme Ferrari en Haïti. C'est un ami.
Oui. Mais peut-être Fuenquinos. Ça ferait bien Fuenquinos avec un peu de dictature congolaise matinée, de l'intolérance.
Si vous avez des noms.
Voilà, nous sommes preneurs. je pense que on avait aussi une connaissance parfaite de Paris. Avant même que je ne vienne en France, il y avait toujours le grand du quartier. Il n'a jamais mis le pied en Europe, il n'a jamais voyagé. Il connaissait les stations du métro, les noms. Et avant même que je vienne, il me donne des conseils alors qu'il n'a jamais mis le pied là-bas. Quand tu arrives à Châtelet, fais attention, il y a du monde. Mais évidemment, c'est une gare. Donc, et puis quand tu sors, il y aura des voitures. J'ai dit, ben évidemment, il y a des voitures. Mais attention, en Europe, les maisons se ressemblent. Parce qu'il avait vu des photos de l'architecture haussmannienne. Donc, il donne des conseils et il te dessine la carte. Moi, je suis arrivé en France avec une carte de métro dessinée par même monsieur qu'on appelait De Base, parce que c'est lui la fondation du quartier, monsieur De Base. Donc, quand on avait un problème européen, on allait voir monsieur De Base, tout. Il donnait les conseils et vous lui donnez 25 francs. Parce que pour participer à la mémoire collective qu'il faisait. Mais en lisant cela aussi dans le livre, nous étions dans une sorte de rêve. Pour nous, on essayait d'imaginer qu'est-ce que l'Europe, comment ça va être, quand je vais arriver. Un jour, je demande à ma mère, mais l'Europe, c'est comment? Alors qu'elle n'a jamais voyagé. Hein. Elle a dit, ça ressemble, on dirait qu'on est dans l'eau, tout est bleu. J'ai jamais compris où elle avait trouvé cette image. Et à côté, il y avait sa grande sœur, maman Sabine. Elle souffrait de l'éléphantiasis, vous savez, les pieds qui gonflent. Il dit, en plus, là-bas, ils n'ont pas l'éléphantiasis. Donc, elle a rajouté, chacun a donné à la France presque un pouvoir de guérison extraordinaire qui allait contraster avec un certain désespoir quand j'avais vu pour la première fois dans le métro de Paris. Je venais d'arriver il n'y a pas quelques jours, je m'assois et puis je vois un clochard arriver, commencer à chanter la guitare et donnez-moi une pièce. Et moi, j'étais là, je dis, mais même les Blancs commencent à faire ça, là, c'est grave. J'ai sorti la petite pièce que j'avais et j'ai donné le soir, je cours pour appeler au pays. J'ai dit, la France est par terre parce qu'en fait, ils ne sont pas tous riches. Et c'était le contraste entre la littérature, ce qu'on s'imaginait, et la réalité qui était là. C'est peut-être ça qui m'avait écrit.
Il y a une grande chance aussi de pouvoir rêver les autres. C'est une grande chance. Vous savez, c'est incroyable comment on a pu... On l'a fait pour beaucoup de choses, pour l'économie aussi, pour toutes sortes de choses. Vous êtes riche et on fait croire que vous êtes pauvre. J'ai entendu des gens dire, par exemple, alors, quand je vais à Port-au-Prince, les Haïtiens, puisque je n'y suis pas depuis longtemps, ils croient que je suis Québécois, parce que ça fait trop longtemps que je vis. Et quand je vais au Québec, les Québécois croient que je suis Haïtien, alors je ne sais pas qui je suis. J'ai dit, mais vous êtes deux choses. C'est plus que ceux qui sont une chose. C'est-à-dire, arrêtez avec vos histoires de si vous êtes deux et c'est pas assez. Peut-être que pour en être sûr, il faut vous ajouter une autre identité. Le problème de l'identité, c'est qu'on n'en a pas assez. Il faut avoir trois identités au moins. C'est deux le problème. Si vous en avez deux, on dit vous n'êtes ni d'ici ni d'ailleurs. Mais si vous en avez trois, eh bien, on se tait. Il faut ajouter une autre identité pour régler le problème. C'est-à-dire, c'est le rêve d'être quelque part et d'avoir dans sa tête un autre univers. D'être à Paris et d'avoir... Manosque dans la tête. C'est le rêve. Tout individu doit toujours avoir une activité constante en émotion, en sentiment, en sensation. Et on a la possibilité de se sauver. Le monde, il y a quelque chose des fois que tout cela devient si étouffant qu'on ne peut pas sauver. La plupart du temps, je rencontre des gens qui semblent avoir des problèmes, mais le vrai problème n'est pas exactement la difficulté à laquelle ils font face, c'est surtout l'absence de fenêtre pour s'échapper. Souvent, je vois des gens, je dis, mais vous ne savez pas, si vous étiez... ça ne va pas bien. Et là, Manos, ça ne va pas bien. Les situations deviennent difficiles. Mais on va vous recevoir très bien à Port-au-Prince. Il faut avoir la possibilité. Le peu que vous avez ici va faire de vous un riche port-au-princien. Donc il faut le savoir. Je crois que le drame qui est arrivé dans notre époque, c'est que les riches sont devenus sédentaires, les puissants bougent de moins en moins, et que ce sont les pauvres qui bougent depuis peut-être la fin de la guerre. Ce sont, d'abord on le voit, puisqu'ils arrivent maintenant massivement, ce sont les plus pauvres qui arpentent la planète. Et qu'est-ce que c'est qu'arpenter la planète? C'est devenir à chaque fois plus cultivé. Puisque quand vous arrivez dans un pays, et si vous êtes pauvre, sans filet et en condition d'infériorité, eh bien, vous devez apprendre tout seul ce que vous saurez. Et c'est le seul apprentissage intéressant. Ça veut dire qu'on va se plaindre, personne ne nous aide, eh bien, c'est pour ça que ça va être solide. Votre apprentissage, c'est-à-dire, ce que je vais dire au début, c'est comment est-on arrivé à nous faire croire que nous sommes pauvres quand nous sommes extrêmement riches? Voilà.
Je pense...
Excusez-moi, quand je me suis arrêté au bravo, ce n'était pas pour dire « s'il y a un bravo, je suis content », ça veut dire « s'il y a un bravo, je suis compris
». Non, mais je pense que cette multiplicité d'identités, c'est ce qui nous avait fait rencontrer. Notre amitié n'est pas née de la cuisse de Jupiter. Ce n'est pas tombé comme une pluie qui n'avait pas prévu la météo française. Nous avions déjà peut-être une certaine prédisposition. Je me rappelle, en ces débuts des années 90, j'étais un poète. Ça va, madame? Voilà. Rassurez-vous, le voyage se passera bien. Voilà. Nous étions dans les années 90, madame, je sais. Et à cette époque, j'avais publié de la poésie. J'arrive au Salon du Livre de Paris. Je croise un monsieur. La touffe était un peu le double de celle qui est là. Hein. Là, c'est parce qu'il a baissé ça pour que ça rentre bien dans la porte de l'académie. Donc, je suis arrivé. je suis arrivé. Il y avait les auteurs africains qui étaient là, qui se vantaient de ce qu'ils avaient vendu. Il y avait même une là qui était la plus célèbre de l'époque, dont on ne citera pas, mais vous voyez le portrait robot, qui ne voulait pas signer à côté de moi parce qu'il ne voulait pas des inconnus. Et puis on m'a mis à côté, lui, il venait de publier en France, réédition, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ?» on se calme. Voilà. Il venait de publier ce livre et j'ai vu qu'il avait une attention pour un pauvre petit poète qui était en train de signer un livre de 48 pages que personne n'a signé. Et il a discuté avec moi, il a tenté de faire vendre, mais ça ne passait pas, etc., etc. On s'est changé les coordonnées. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Nous nous écrivions, j'écrivais, il répondait. Je me disais, mais le monsieur, il est de l'autre côté de Québec. Et je recevais cela. Et cette amitié a duré tellement longtemps que nous n'avions même pas vu passer le temps. Mais lui, il a une version qui parfois m'étonne, parce qu'il y a une certaine proximité avec ce que j'avais dit ce jour-là.
Non, mais c'est vrai. D'abord, c'est ça qui est intéressant dans cette improvisation, puisque nous sommes assez amis pour improviser sur des choses que nous avons répétées 1000 fois. C'est ça. D'abord, je crois que les conteurs doivent se répéter. Et l'histoire ne compte pas. Ce sont les variations de l'histoire qui compte,
c'est-à-dire... On ajoute toujours quelque chose.
Lié aux humeurs, et absolument. Mais vous avez remarqué, juste avant, pour parler de son art, vous avez remarqué comment il a reparlé de la poésie. C'est l'art circulaire du conte. Et dans ses livres, c'est ce qu'on voit. Il y a toujours... Ça fait toujours comme ça. Comme une roue, et ça repasse, et ça avance. Ça avance parce que ça s'est repassé sur le même. Et c'est un peu cette esthétique que nous voulons vous présenter ici, en exposition, au lieu de faire une exposition de ce que nous faisons en littérature, d'expliquer les arcanes de ce que nous faisons, nous vous le montrons dans une sorte d'improvisation qui est une forme de réflexion. Quant à cette intimité dont il parle, quand j'étais assis à côté de lui, quand j'ai senti vraiment que ça allait être un ami, c'est que il était très lucide et avec ironie, une ironie et rieuse, ce qui est rare. L'ironie est souvent un peu, oui, hein, un petit peu grincheuse. Et il a dit, mais vous voyez ces gens, il n'y a personne qui le regarde. Il m'a dit, vous savez, j'ai écrit un livre, même RFI n'a pas fait un truc sur moi. Mais il n'a pas dit désolé, écrasé et désespéré. Il a dit avec humour et je voyais... Dans son œil, une lueur, comme quelqu'un qui était certain, mais pas d'atteindre d'arriver à la célébrité, mais d'arriver à faire entendre sa voix. Il était dans la littérature. Et à un moment donné, les gens défilaient devant nous et sans nous regarder. Et il m'a touché très gentiment la jambe et il m'a dit, et tu sais, tous ces gens qui passent comme ça devant nous, ils ne savent pas qu'ils sont mes lecteurs. Et c'est vrai, des années plus tard, on s'est retrouvé au Salon du Livre de Paris, dans la même situation presque, mais avec une armée d'attachés de presse derrière lui, puisqu'il venait de gagner le Renaudot. Et naturellement, les gens en passant se sont arrêtés pour lire ses livres. Ça ne veut pas dire que les gens sont aveugles. Ça ne veut pas dire que les gens sont méprisants, mais ils n'étaient pas au courant. Il y a une profusion de propositions au Salon du Livre de Paris. Ça veut dire qu'il a cru en eux. C'est ça qui est extraordinaire. Il a cru en eux. Et j'ai l'habitude de dire, je l'ai écrit dans un livre, que si les écrivains écrivent, c'est parce qu'il y a des lecteurs qui, dans leur chambre, tout seul, réclame ses livres. Je crois que c'est l'appétit des lecteurs qui crée la littérature, beaucoup plus que le désir de l'écrivain, qui est un désir individuel, intime, personnel, qui peut être même discutable par sa vanité parfois. Mais il n'y a aucune vanité à vouloir lire quelqu'un.
Ça veut dire qu'on a compris, en applaudissant. Non, mais après, c'est vrai que ça m'avait permis de découvrir toute ta littérature, de comprendre et de voyager jusqu'à Québec pour voir combien là-bas Dany était partout. C'est-à-dire que dans la presse, les émissions de cuisine, on ne pouvait pas couper des oignons sans citer son livre. Tout le monde en parlait. Je suis arrivé dans un territoire... Et les gens ne s'imaginent pas l'impact de la littérature québécoise. C'est-à-dire que Le Québec a une autonomie littéraire, c'est-à-dire il n'a pas besoin de Paris pour exister. Un écrivain peut être mondialement connu là-bas, célèbre, sans avoir publié à Paris. Mais moi, pour le faire, pour le comprendre, il avait fallu que j'aille là-bas, croiser un autre de nos amis qui s'appelle Rodney Saint-Éloi et qui anime les éditions Mémoire d'Encrier. J'en avais fait vraiment mon deuxième territoire. À cette époque, j'habitais déjà aux États-Unis, au Michigan, et que au lieu de revenir en France quand j'avais fini ma profession d'écrivain en résidence, ce qu'on m'avait donné, je voulais m'installer à Québec rien que par cette littérature que j'avais lue, rien que par le fait que je lisais tout ce qu'il écrivait. Et puis au bout d'un moment, il a écrit un livre qui m'avait pratiquement désespéré. Je crois que c'était « Je suis fatigué ». Voilà. C'est-à-dire où il annonçait pratiquement qu'il arrêtait d'écrire. Vous imaginez pas l'exaspération qui était la mienne. Je me dis, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut que j'aille là-bas. Il ne peut pas s'arrêter d'écrire. Et moi, je suis allé. Moi, je dis, non, tu ne peux pas faire un truc.
Juste voilà. Une seconde. Oui. Avant, dans ça, je me souviens quand j'aime bien cette expression, quand Michael Jackson est mort, et il y a un jeune garçon à Lyon qui a dit « Ça ne se passera pas comme ça. »
J'étais dans cette situation.
Mais c'est extraordinaire quand même. J'étais que quelqu'un proteste contre la mort. Voilà. C'est pour ça que nous mourons. Personne ne proteste. Personne ne proteste. Alors que Sioran avait dit cette phrase extraordinaire, « Cette chose qui arrive depuis des millénaires garde encore toute sa fraîcheur. » Il faut protester. C'est pas normal de mourir. C'est pas acceptable non plus.
C'était ma protestation. Je me dis, il va pas s'arrêter d'écrire. C'est pas possible. Et je suis allé là-bas. C'est facile de sonder quand un écrivain est en train de faire quelque chose. J'ai vu le comportement. Il tournait en rond. Et il y avait encore des papiers qui traînaient parce qu'il écrivait à la main. Tout. Je me suis dit. Celui-là, ça ne va pas durer longtemps, donc il faut que je pousse encore un peu. Donc j'ai commencé à dire, mais tu sais, il doit manquer beaucoup d'éléments, tel personnage doit aller là. Et j'ai commencé à lui parler du livre qui le rend encore très nostalgique. C'est celui qui vient de sortir aux éditions Zulma, Pays sans chapeau, qui, à mon avis, est vraiment la clé qu'il faut avoir lorsqu'on entre dans l'œuvre de Dany Laferrière. Quand vous voyez, c'est le livre qui s'écrit à l'intérieur du pays, en Haïti. Il a quitté depuis 20 ans. Il arrive sur place. Ce sont les gens qui sont en train d'écrire le livre. Et vous, les lectrices et les lecteurs, vous êtes également pratiquement des personnages dans ce livre. Vous rentrez dans une certaine cosmogonie. Vous croisez des armées de zombies qu'on recherche de bout en bout à l'intérieur. Et encore la parole haïtienne qui est là. Ce n'est pas parce qu'il a porté les t-shirts que je fais l'allusion. Il y a une sorte de réinvention du journal intime que je n'avais pas vu dans les espaces d'expression française. C'est-à-dire que le journal intime parle, c'est vrai, d'Haïti. On sent Dany qui est là, mais la force du livre, c'est que ça atteint ce que Mario Vargas Llosa appelle une autonomie de la réalité. C'est-à-dire que le roman en lui-même devient un monde. Et quand vous rentrez là, vous voyez comment votre propre monde est plein de turpitudes. Donc quand je rentrais, je lui dis, ton roman, Le Pays sans chapeau, qui au passage, Pays sans chapeau, c'est le pays de l'au-delà. Parce que dans la cosmogonie haïtienne, dans la conception de la mort, on n'enterre pas les gens avec leur chapeau. On va finir par les lever, d'où le pays sans chapeau. Donc c'est de l'au-delà. Et nous avions dans le Congo une équivalence. On appelle Mpemba, c'est le pays où on va aussi sans chapeau. Et un auteur congolais avait écrit « Le soleil se couche en Mpemba ». C'est-à-dire que nous pensons dans la cosmogonie congolaise que lorsque le soleil s'en va, il s'en va au pays des morts pour les éclairer afin qu'ils ne puissent pas bousculer leurs voisins qui sont dans les autres cimetières. C'est pour cela que quand nous passions, on allait quelque part, nous on aimait jouer dans les cimetières. Ça faisait plaisir aux morts. Donc, on passait dans les cimetières, il fallait faire attention. Parfois, il y a des fantômes qui vendent leurs marchandises, il ne faut pas marcher dessus. Si vous marchez dessus, le lendemain, le pied enfle. Donc, je retrouvais un peu cette cosmogonie congolaise à l'intérieur de Pays sans chapeau, si bien que la réédition, l'existence de ce livre en poche m'a permis encore de me replonger dans cette période qui était extraordinaire, qui finalement a scellé notre amitié. Et pour en terminer avec ces deux livres... Ah ben bon, non, on avait dit 200 euros, là c'est... Oui, mais là, c'est 5 euros oui, quand
mais,
même.
Non, mais 5 euros d'abord, parce que c'est quand même pas assez.
Donc, le parallèle que je veux faire avant faut que j'augmente les enchères, ce livre, ça ne m'étonne pas que je sois devenu plus tard fou de l'autre livre, L'énigme du retour. Parce que ce sont deux livres qui se télescopaient. Et je peux même dire que c'est grâce à ces deux livres que, personnellement, j'avais eu également l'idée d'écrire Lumière de Pointe-Noire, un journal intime.
Oui, mais pour l'énigme du retour, je ne vais pas payer un centime. Parce que tu es là-dedans.
Oui, je suis dedans.
Oui. C'est tout à l'heure, juste avant qu'on arrive ici, une dame d'apparence timide, tout au moins discrète.
Elle doit être là quelque part dans le village, non?
Elle voulait poser une question à Alain, parce qu'elle avait entendu Alain dire qu'il était le scribe de sa mère. Elle lui demandait où était sa liberté. Mais moi, je suis resté sur l'expression le scribe de sa mère. Et j'aurais beaucoup donné pour écrire un livre dont le titre serait Le scribe de ma mère.
Je note.
Je crois que c'est le cœur même de l'œuvre d'Alain. Et ce poète anonyme et unanime, qui n'a qu'une seule muse, qu'un seul point de perspective, et sa mère, maman Pauline, qui vient de se retrouver dans son dernier livre, Les cigognes sont éternelles.
Immortelles,
éternelles, mais...
c'est presque...
C'est toi. Non, c'est toi. Qui es éternel. Les cigognes sont immortelles.
Il ne veut plus utiliser immortelles parce que c'est déjà pris.
Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fort, l'image de la mère dans l'œuvre d'Alain Mabankou. Et vous savez, nous tâtonnons dans le noir. La folie nous guette parfois, disait Henry James. Mais il y a un moment toujours, en tâtonnant, on tombe sur le... et qui nous permet d'allumer la lumière. Et tous les écrivains cherchent cela. Il y a des possibilités d'artifice brillants, séduisants, et qui sont nombreux, qui nous attirent. Nous pouvons plaire, nous pouvons chercher à convaincre, nous pouvons émouvoir, mais ce n'est pas souvent que nous arrivons à nous émouvoir nous-mêmes. Et l'autre jour, je disais à un ami qui me disait « Ah, dans le dernier livre d'Alain, c'est extraordinaire, mais... » J'ai dit « Mais quoi ?» Il dit « Il a l'air trop content. » Mais j'ai dit, mais oui, parce qu'il a trouvé son sujet, c'est sa mère. Il a trouvé son sujet qu'il avait déjà, mais dans Pointe-Noire, mais là, il est au cœur de ce personnage. Il voulait faire un portrait empillé de sa mère. Il a trouvé son sujet. Vous ne pouvez pas savoir la joie d'un écrivain qui trouve un sujet qui ne soit pas littéraire. C'est-à-dire qu'il touche dans du solide. Et tout est, comme disent les Américains, « gem ». Tout est diamant, tout est solide. Et tu avances et tu vois les choses, tu es sûr. Tout le monde, tout lecteur peut vous dire « c'est pas bon, il y a des choses qui ne sont pas bien », mais toi, tu es sûr de ça. Et tu lui réponds « vous ne savez pas cette émotion, je la connais ». Et c'est mieux quand ça arrive à un certain moment dans la vie aussi. C'est-à-dire, on est, disons... j'allais dire au sommet de son art, mais l'expérience aidant, les années passant, la lecture ayant aidé aussi, on sent qu'on est capable d'exprimer ce qu'on ressent et brusquement arrive le sujet. Le sujet. C'est extraordinaire. On est tellement content et qu'on doit faire un effort pour ne pas perdre le sujet de vue parce que ce sujet-là, le sujet de la mère, vient toujours avec une dose d'amertume aussi. Une dose de tristesse, une dose de désespoir. Comment peut-on décrire le désespoir quand on est si joyeux? de pouvoir la nuit dormir en se disant « dès le matin, on va attaquer le sujet qui nous intéresse ». Dès le matin, on est tellement, c'est vraiment un athlète et qui s'apprête à y aller. Et c'est ce que j'ai senti dans son dernier livre, et cette joie et du guerrier appliqué. Il est là, il est là, il est là tout prêt à bondir, il est sûr de lui. C'est pas facile, c'est pas souvent qu'on écrive un livre qui soit hors de portée de critique. C'est-à-dire, tu as parlé tout à l'heure de la littérature québécoise autonome, donc qui est autonome. On ne peut pas la battre, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas écraser, on ne peut pas humilier cette image que l'auteur est en train de construire, celui du visage adoré de sa mère. Ce visage qui apporte avec lui une certaine tristesse, puisque Alain n'a pas été aux funérailles de sa mère, il n'a pas pu y aller, ou il n'a pas été, et c'est entre ces deux possibilités que se cache sa tristesse et qui fait qu'il ne cesse depuis d'évoquer le portrait de cette femme.
Je pense que on va prendre quelques questions aussi dans la salle pour que ce soit un petit échange qui nous ferait plaisir. Après, on boira le pot de l'amitié qui est là.
Il est à Los Angeles, il est devenu végétarien, il est devenu, tu vois, il se protège.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
J'ai lu votre livre Lumière de Pointe-Noire. Et à vrai dire, je voudrais savoir la différence avec le livre que vous avez écrit maintenant. Est-ce possible?
Oui, c'est toujours, tout est possible, madame.
Ça serait formidable, merci.
Ben oui.
Parce que je ne sais pas si je devrais le lire ou non, jusqu'à présent.
Ah bon? Mais madame, surtout ne le lisez pas. Hein, vous savez? Ne le lisez pas. Écoutez, Lumière de Pointe-Noire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un livre que j'ai écrit après 23 ans d'absence au Congo-Brazzaville. Un peu l'écho dont je vous ai parlé de l'énigme du retour, parce qu'avec Dany, on se parle de livre en livre. J'ai pris de lui le côté du journal intime, le côté d'une vie qui devient roman, et non pas toujours le roman qu'on veut imposer à l'intérieur de la vie. La vie peut être un roman parce que nous n'inventons rien, nous sommes des metteurs en scène de quelque chose. Donc, Lumière de Pointe-Noire, c'est un livre d'adulte qui retourne 23 ans après la disparition même du pays et qui revient voir les traces. C'est un livre de portrait, vous voyez, on voit la mer, on voit le quartier, on voit... C'est la ville de Pointe-Noire qui est décrite. Les cigognes sont éternelles. Les cigognes sont immortelles. Les cigognes sont immortelles. On ne peut pas dire la différence du livre. Quand vous écrivez, vous êtes en train de placer des pièces. Vous ne savez pas comment ça va se fusionner. Les cigognes sont immortelles. C'est le livre de l'enfance. C'est le livre de la famille. C'est le livre d'une certaine Afrique pendant les années 70. C'est aussi le regard que nous portions à cette époque sur la France, sur le monde. Les fameuses fenêtres dont parlait Dany Laferrière, nous avions des fenêtres ouvertes. Mais ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est qu'il y a quelques personnages principaux, la mère, toujours la même, Maman Pauline, que vous retrouvez dans Lumière de Pointe-Noire, le père, Papa Roger, et surtout le chien. Le chien est un personnage, je m'en veux de toujours l'oublier quand je passe pour parler de ce livre, parce que ce chien est capital, il symbolise la croyance que nous avons vis-à-vis des animaux. Je prends l'exemple, dans le roman, quand on ouvre la radio Gondig, qu'on écoutait les informations, on entend une voix qui annonce l'assassinat du président de la République. Le chien était en train de manger la nourriture que Maman Pauline avait jetée de rage. Le chien a arrêté de manger en écoutant lui aussi la radio et il a disparu. Ça, c'était mon côté, peut-être même exagération bande dessinée que je lisais à l'époque. Le chien disparaît, eh bien, le petit narrateur est à la recherche du chien, tandis que les adultes sont en train de parler des vrais problèmes, qui a tué le président, c'est qui l'impérialisme, c'est qui les valets locaux, etc., etc. Donc, il n'y a pas... On ne compare pas facilement, forcément, les livres. C'est comme si on vous disait, bon, vous avez un enfant, un autre, comment vous allez les comparer? On ne les compare pas parce que chacun aura forcément un itinéraire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le même père, ils ont la même mère, Pauline Kengue, qui n'est pas là, et puis ils ont le même sang. Mais les battements de cœur ne sont pas les mêmes.
Non, mais il faut dire aussi que les Lumières de Pointe-Noire, c'est un portrait appliqué. Chaque thème est bien défini, bien expliqué. C'est un livre que Alain n'avait pas confiance dans ce livre. Il l'écrivait et il le trouvait un peu scolaire, il mettait... Et je me souviens, quand j'ai commencé à le lire, une version, j'ai dit, Alain, c'est un livre extrêmement important. Et ce n'est pas parce que le livre n'a pas les entrelacs du récit, il n'y a pas toutes les techniques du roman, il n'y a pas cette orchestration magistrale. Donc, le livre a créé sa propre forme. Il faut pas le forcer. L'un des problèmes des écrivains du tiers-monde, dont j'en suis, c'est qu'on a toujours l'œil rivé sur le chef-d'œuvre. Parce que d'abord, parce qu'on a une espérance de vie très, très, très brève. Et il faut, à chaque livre, on doit faire le chef-d'œuvre. Hein. Alors, il y a des types qui peuvent vivre. Cette semaine, je le dis à vous, mon voisin à l'Académie française, René de Obaldia, va avoir 100 ans. Ben, le type, il a 100 ans, il peut voir venir. Mais moi, je viens d'un pays où, à l'époque, c'était 52 ans l'espérance de vie. Donc, je dois me presser, il me faut écrire un chef-d'œuvre avant de mourir. Donc, chaque livre, je dois le forcer à augmenter la puissance, changer les batteries. Et il faut, à un moment donné, il y a une version, je dis, la version est bonne, elle est amusante, elle est belle. Oui, mais ce n'est pas assez. Il faut que le lecteur s'incline, qu'il dise, oui, grand livre. Et c'est là que je vais le gâcher, naturellement. Et là, j'ai arrêté la main d'Alain. J'ai dit, non, ne gâche pas ce livre. Il a une émotion belle. Il n'a aucune ambition. Il n'a aucune ambition. Et le livre est resté, il a touché les gens beaucoup. Et Alain a changé carrément sa vision même de la littérature en touchant à cet intime-là dont il a parlé. Les cigognes sont immortelles, c'est autre chose. Il est calme, il a écrit le livre qu'il voulait écrire avec Pointe-Noire. Là, il entreprend de faire le roman à grande orchestration, mais sans ambition aussi. Et là, il est arrivé, je crois, à ce mouvement d'ensemble qu'on voit bien que l'auteur est arrivé à très grande maturité. C'est-à-dire, l'histoire, le destin du chien est aussi important que le président de la République, que même la mort de son oncle, et que les conciliabules pour essayer de quitter le pays, et que la nourriture, et parce qu'il y a une affaire de nourriture, hein, parce que lui, il est toujours en train de causer avec son père, suivant la grande tradition machiste, si l'on peut dire, les hommes parlent de choses importantes, son père lit le journal, mais sa mère ne sait pas lire. Alors, naturellement, ils ne viennent pas à temps pour le repas. Alors que maman Pauline appelle pour qu'il mange. De rage, elle jette la nourriture. Je connais beaucoup de gens qui rêvent de faire ça. Elle jette la nourriture. La nourriture est tellement bonne qu'il n'est pas du tout à l'étage du chien que même le chien a peur de manger. C'est comme quand on passe devant un restaurant qui nous semble trop beau pour nous. Même si on a l'argent en poche, on n'ose pas rentrer. Alors le chien a peur de manger. Donc il y a tous ces petits détails infimes qui montrent que l'œil du narrateur est capable de faire des panoramiques sur les paysages et des zooms sur les personnages, donc que l'écrivain est à maturité.
Je crois que c'est moi qui dois payer, là.
Il n'a pas un sou, il a des cartes de crédit.
J'ai pas un sou, voilà. On prend une autre.
Oui, bien sûr, on prend d'autres questions jusqu'à ce que.
Le micro arrive, madame.
Donc, ce livre de la maturité, là, c'est quel âge ? Pour parler de sa mère, de cette façon ?
C'est le livre de la maturité, c'est quel âge ?
C'est ta maturité.
C'est ma maturité.
C'est ta maturité. Oui, mais le prêtre, le père Cassagnol, disait toujours, chaque dimanche, les gens qui appellent pour savoir à quelle heure est la messe de 9 heures. Maturité, c'est bon, c'est bon.
Maturité, c'est bon. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je me cherche toujours. Je suis un fruit qui parfois est vert, souvent mûr, mais ne tombe pas. Ah, voilà.
Ça, c'est un gros sol. Non, Kayumi.
On a encore de la place pour les questions.
Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez sur Google, c'est à la fois en lettres et en chiffres. Dans Wikipédia. Je n'ai jamais compris pourquoi ils mettent l'âge des gens en lettres et en chiffres dans Google.
Oui. Et il prévoit déjà un espace pour la date de la mort, hein, parce qu'il y a toujours un trait d'union à côté.
Oui, il y a toujours un trait d'union. Ça, mais comment voulez-vous qu'on ne meure pas si on met des traits d'union à côté de notre date ?
Ils vont mettre né en 1968, mort à, il y a un trait d'union, ça attend.
Alors que Borges dit qu'il n'y a aucune raison de mourir, les preuves de la mort ne sont que statistiques. C'est parce que d'autres sont morts qu'on croit qu'on va mourir. Moi, je ne crois pas. Une fois, j'avais dit ça à la radio au Québec. J'ai dit, mais je ne mourrai pas. Déclaration banale de la part d'un vivant. Et quelqu'un a appelé, ah oui, mais de quel droit ? Mon frère est à l'hôpital, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire une chose pareille, c'est un blasphème. J'ai dit, madame, c'est très simple, on prend le pari.
Oui, bonsoir. Ma question, c'était de savoir si vous pourriez concevoir de d'écrire un livre à quatre mains, tous les deux, ou c'est quelque chose qui vous a déjà effleuré l'esprit, ou...
Mais madame, c'est ce que nous faisons ici. On croit de moins en moins à la littérature orale. L'un de mes amis, mort il n'y a pas longtemps, était devenu un grand maître de l'art oral, Jean d'Ormesson. Et il avait, je pense qu'une grande partie de son lectorat ne connaissait que le Jean d'Ormesson oral qu'on écoutait à la radio et à la télévision. Les gens étaient impressionnés par cette joie qu'il pouvait diffuser et cette liberté, cette façon qu'il avait d'articuler. Et une fois, il était à la télévision de Bernard Pivot, à l'émission de Bernard Pivot, et il y avait là Bernard Franck. Je ne sais pas s'il y a trois mains qui se souviennent de Bernard Franck.
Ah, il y a plus
oui,
que trois.
Oui, il y a plus que trois mains. Alors Bernard Franck, c'était celui, le critique de l'Observateur, du Nouvel Observateur et du Monde, et qui autrefois le taquinait toujours. Et il disait, j'ai écrit un livre. Bernard a écrit un article sur ce livre. Il était très dur et très bon. Il a écrit un second article sur ce livre qui était aussi dur et si bon. Un troisième article, terrible, mais très bon. Et un quatrième article, ce n'était pas bon et ce n'était pas sur moi. Donc il y a qui est-ce qui pouvait faire ça, c'est-à-dire un mélange d'autodérision de choses et de vanité. Ce n'était pas sur moi et ce n'était pas bon. Alors Bernard Pivot lui dit, mais c'est vrai quand même, c'est étonnant, vous dites cela, ça, j'ai l'impression que vous avez toujours raison dans tout ce que vous dites. Non Bernard, je n'ai pas toujours raison. Car avoir toujours raison, c'est mauvais pour le caractère. Donc on n'a plus ça à la télévision, des gens qui peuvent répondre avec cette liberté totale, et liberté souveraine, et qui a fait du petit écran l'abat pas l'abat et d'un mabankou.
Voilà. Donc pour vous rassurer... C'est un livre ouvert qu'on écrit ici, et Manosque, c'est peut-être le seul festival qui se passe sous l'arbre à palabres. Et donc, on va souffrir d'avoir la littérature orale. On a des conversations, on a ce qu'on dit, parce qu'en fait, la littérature, c'est quoi ? Les romans, c'est quoi ? C'est inscrire la parole. Mais notre parole qui est ici déclamée garde sa liberté d'avoir des nervures, de prendre des circonvolutions, d'être retourné sous toutes les facettes, d'être la face A, d'être la face B, ou de ne pas avoir de face. C'est ça la force même de cette littérature. Peut-être ce festival, c'est l'un des rares festivals de l'oralité en Europe. Vous voyez, je sors même de la France, en Europe.
Mais comment peut-on résister à un pareil flatteur ?
Non, mais c'est évident. C'est évident. Chaque fois que je viens ici, je parle sous l'arbre.
C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que j'ai aimé, moi, ce que j'aime ici, d'abord, c'est qu'on nous garantit le beau temps. D'abord. Et ensuite, on nous garantit un public magnifique. Dis-moi qui parle devant tous ces gens. Et je voulais dire modestement, pour faire une comparaison vraiment à mon niveau et de façon modeste, par rapport à ce que tu dis. L'art oral, l'art oratoire, l'art, je dirais la littérature orale, et les trois plus grands de la culture judéo-chrétienne n'ont pas écrit, pour nous comparer avec des gens de notre niveau. Socrate n'a pas écrit une ligne, c'est Platon qui a écrit pour lui. Pythagore, ce mathématicien que je connais, enfin je vous dirai dans quelles conditions je l'ai rencontré, n'a pas écrit ses théorèmes, on l'a écrit pour lui. Et Jésus n'a écrit qu'une fois sur le sable, il a effacé. Donc il n'y a pas un seul texte. Et il n'y a que des témoins. Donc ça veut dire qu'on est dans une lignée assez confortable. Quant à Pythagore, si je reviens à Pythagore, pourquoi j'ai dit Pythagore que je le connais? C'est parce que quand mes filles étaient petites, je leur racontais toujours que je connaissais tout le monde, de tous les temps. Et il disait n'importe quel nom, je disais Marc Paul, vous connaissez Marc Paul, que les Italiens appellent Marco Polo. Nous, les Français, on appelle Marc Paul. Alors je disais Marco Polo, je le connais très bien, j'étais en Chine avec lui, il n'était pas aussi sympathique qu'on le croit, et puis de toute façon, il a raconté plein d'histoires, et puis je comptais. Mais toujours, je disais les textes vrais. Je disais Socrate, je l'ai connu. Socrate habitait, c'est surtout sa sœur, Marie-Thérèse Socrate, qui habitait en banlieue d'Athènes, qui faisait un barbecue du tonnerre, des souvlaki à vous couper les doigts. Elle n'était pas du tout intellectuelle. Elle n'était pas du tout, bon, il a inventé. Alors, je parlais de la maïotite et je racontais comment Socrate arrivait à vous faire sortir. Alors, mes filles toutes petites comprenaient très bien ce qu'est la littérature, la philosophie de Socrate. Je parlais, mais il y avait quand même des jaloux, il y avait des petits nerveux qui écrivaient tout le temps sous ce qu'il disait. C'est Platon. Et donc Shakespeare, lui, je le connais bien. Alors tout, il a rapporté, et sa sœur Marie-Thérèse Shakespeare, qui était une fille sympa, mais vraiment sympa, mais qui n'a jamais ouvert un livre. Il faut toujours avoir, c'est toujours Marie-Thérèse. Alors un jour, très longtemps après, ma fille m'envoie un mail et me dit « Papa, elle était aux États-Unis à Tallahassee, je fais un devoir et c'est rapide, je ne peux pas le faire moi-même parce que c'est trop bref et sur Camus. Je sais que tu connais sa sœur Marie-Thérèse. Et j'ai dû accepter de faire le devoir parce que c'est vrai, à Blida, j'ai rencontré sa sœur Marie-Thérèse. Mais vous savez, ça a l'air banal, mais les enfants adorent ça quand leurs parents savent tout.
Merci. Il est 7h. Bon, ben, il nous reste à vous remercier. J'espère que vous avez apprécié le fait que la littérature peut quitter les livres pour être orale. Et que vous avez aimé cette sorte de complicité que nous avons, complicité dans la parole, complicité dans l'écrit. Nous sommes des frères jumeaux en littérature et aussi dans la vie courante.
Juste une petite chose, c'est un rêve, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est un rêve. J'aimerais bien, j'ai toujours vu les gens à Cannes, les starlettes, les gens qui montent les marches. Pourquoi on a tout laissé au cinéma? Je vais me mettre debout. Avec Alain, j'aimerais que vous faites des photos comme à Cannes. Sortez vos caméras, photographiez-nous comme à Cannes. Alors là, on est photographiés, on est des stars.
On est parti.
On est des stars. on est connus. Mais c'est vrai, pourquoi la littérature doit être toujours discrète, alors que le cinéma qui a beaucoup d'argent en met plein la vue. Oh, merci.
Merci, merci. À bientôt.